Alors, bonjour à tout le monde. Nous revenons d'une superbe fête des tabernacles. On en parle encore dans les corridors avant l'Assemblée de Saba et ça réjouit. On est revenu avec un beau petit paquet de joie puis d'enthousiasme, des choses qu'on a apprises, des amitiés nouvelles qu'on a développées avec les personnes qu'on a connues là-bas, qu'on n'avait pas rencontrées avant. Alors, ça a été vraiment le point culminant de l'année. Et Dieu veut que ce soit comme ça avec la fête des tabernacles. C'est la fin des fêtes de l'année. La fête des tabernacles, le dernier grand jour, c'est le summum. C'est le point culminant de l'année. Et là, Dieu, comme on a vu à la fête, nous donne un avant-goût de ce que ça va être le royaume établi sur la terre. Comment les gens vont vivre? Comment ils vont se comporter? Quelle douceur il y aura dans la société alors? On l'a vécu à l'intérieur de l'Église, parce qu'on a vécu ces jours-là ensemble, puis on a vécu la paix, on a vécu l'harmonie, l'entraide, ces choses-là. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui va se vivre sur toute la planète après le retour de Christ. Pendant 8 jours, on a vécu à une petite échelle, si on veut, un autre monde, une autre société complètement différente. Bien sûr, il y a eu des difficultés. Bien sûr, il y a eu des épreuves. Certains ont eu de la maladie. Il y a eu des problèmes à régler. Pourquoi? Parce que on a encore des choses à apprendre. Et comme on a déjà entendu dans d'autres sermons, Dieu se sert de toutes les circonstances que nous vivons pour nous apprendre des leçons, ou pour nous aider à aller plus loin, ou pour nous aider à vaincre des faiblesses qu'on a. Et Dieu a ouvert les yeux de plusieurs sur certaines faiblesses à la fête pour qu'on avance, qu'on se protège, qu'on soit plus proche de lui, plus proche les uns des autres, à faire sa volonté ensemble. Alors Dieu permet ces choses-là, justement pour qu'on apprenne, pour qu'on aille plus loin. Mais dans l'ensemble, même s'il y a eu certaines difficultés ou certaines épreuves à l'occasion, ça a été une belle fête de joie, ça a été une belle fête d'harmonie, comme j'ai mentionné. Il y avait des sourires, il y avait des services échangés entre les frères. Et c'est intéressant parce que c'est bon de voir le miroir des yeux des autres concernant ce qu'ils voient à la fête. Les gens qui ne sont pas de l'Église, mais qui nous accueillent, qui nous reçoivent. Et moi, j'ai eu des commentaires que je vous transmets pour que vous voyez un peu la réaction que ça crée chez les autres, de voir un peuple qui est différent de la société actuelle, qui se comporte différemment, d'une autre façon, qui est en harmonie, qui est paisible, qui est joyeux, qui a des sourires. Et le personnel du centre d'art Offord, où nous étions cette année pour la fête, a vraiment apprécié notre clientèle et notre présence. C'est pas nous qui leur avons demandé des commentaires. C'est venu tout seul, puis il y avait le goût de nous les donner. Je pense entre autres à la jeune fille qui était à la billetterie. Vous savez, à la billetterie, on est tous passés à quelques reprises parce qu'il fallait aller acheter nos billets pour les repas ou pour la soirée de l'âge d'or, pour le repas de l'âge d'or et ainsi de suite. Et cette jeune fille-là n'en revenait pas de voir comment les choses se déroulaient. Elle dit, « Monsieur Brochu, des fois, il y avait 30-40 personnes en ligne qui attendaient pour acheter leurs billets. Pas un mot désagréable, pas de poussage, pas d'insistage sur rien. Des gens avec le sourire, qui étaient patients, qui nous remerciaient, même s'ils avaient attendu 15 minutes avant d'avoir leur billet. » Elle dit, « On voit pas ça. » Elle dit, c'est vraiment spécial. Elle dit, j'aimerais ça que ça soit comme ça tout le temps. Dans ma tête, j'ai dit, un jour, vous allez voir qu'elle va être comme ça tout le temps. Ça, c'est parce que le petit peuple de Dieu agit d'une façon différente. Et les gens s'en rendent compte. Et ils y goûtent. Tellement que sa collègue qui était là l'an passé, parce qu'on était au même site l'an passé, sa collègue qui était là à la billetterie ne pouvait pas y être cette année parce que c'était pas sa semaine de travail. Puis elle était malheureuse de ne pas pouvoir y être, sachant qu'on allait être là, parce qu'elle se rappelle de plusieurs d'entre nous, puis elle aime servir les gens de l'Église parce qu'elle dit que c'est un charme. Il n'y a jamais de problème, les gens collaborent avec nous, les gens sont agréables, les gens sont patients, les gens sont paisibles, comme on voit rarement. Le directeur du centre d'art, lui, nous a dit, vous êtes tellement organisés. Ça veut dire ordonné. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre, hein, puis on apprend à avoir de l'ordre dans l'Église, à faire les choses de bonne façon. Comme quand on va pour la salle, on donne aux techniciens tous nos horaires d'activité, on leur donne d'avance la musique qu'on va jouer, à quelle heure on va jouer, et ainsi de suite. On leur présente tout ça d'avance, de sorte que pour eux, c'est pas compliqué à faire. Et pour les repas, c'est la même chose. On y va d'avance pour les menus. On dit nos gens seront au repas à telle heure, et les gens sont ponctuels. Et les gens sont ponctuels pour aller au repas, et ça, ils l'apprécient. Et le directeur du centre disait, vous êtes tellement organisé. C'est un vrai charme de vous avoir, et c'est un charme de voir comment tout se passe en harmonie, puis dans la douceur avec vous autres. Dans le stationnement, vous avez des gens qui dirigent les voitures. Dans la salle, vous avez des gens qui aident les autres pour s'asseoir, qui aident les personnes âgées ou handicapées. Vous avez des gens qui sont très disciplinés quand on leur dit de procéder de telle façon, par exemple, pour aller au repas. Les gens ont fait exactement ce qu'on leur a dit dans les annonces. Alors, pour eux autres, c'est spécial, parce qu'ils ont souvent des groupes que c'est difficile à manœuvrer, là. Quand vous avez 200-300 personnes qui arrivent pour manger en même temps, puis chacun fait comme il pense, avant d'avoir réglé tout ça, puis ordonné tout ça, c'est compliqué. Mais là, nos gens, nous, suivaient exactement la méthode qu'on leur avait dit. Et ça, ça les a impressionnés. Mais ça veut dire une chose, c'est que ces gens-là, pensez-y comme il faut, ils ont eu un avant-goût de ce que va être le monde à venir. C'est ça que ça veut dire. Puis ils nous disent, c'est tellement bon d'avoir un groupe comme ça. Ils ne savent pas que ça va être de même dans le monde à venir, ils ne connaissent pas le monde à venir, mais ils ont quand même un avant-goût. Notre technicien, qui est fourni par le centre d'art, lui a été vraiment impressionné aussi. C'est le même qu'on avait l'an passé, mais il a appris encore à nous connaître davantage. Et lui, ce qu'il nous a dit, il était impressionné de voir que les gens apprécient son travail. Il dit, il n'y a jamais personne qui vient me dire merci ou qui reconnaît mon travail. Il dit, moi, je suis dans l'ombre, en arrière, dans ma cabine de technicien. Mais il dit, vous autres, il y a des gens qui m'ont dit merci. Il y a même quelqu'un qui m'a apporté un peu de chocolat à un moment donné. Il dit, ça m'est jamais arrivé. Voyez-vous, c'est des petits gestes, mais ça, c'est la société de Dieu. Ça, c'est la culture de Dieu qui et en action. Et ces gens-là, ils ont goûté. À un moment donné, vous vous rappelez, quand on a présenté le film L'arrière-scène de l'œuvre, on a eu des problèmes techniques majeurs. Puis il n'y a pas à dire la salle, au point de vue technique, elle a les équipements les plus modernes. Et le technicien est un spécialiste là-dedans. Mais il y en a un qui est spécialiste des problèmes, qui ne voulait pas que le behind the work ou l'arrière-scène de l'œuvre passe. D'ailleurs, ils ont eu la même chose en Martinique. Ça ne voulait pas fonctionner. Ils étaient obligés de recommencer le même film, là, l'arrière-scène de l'œuvre. L'adversaire ne voulait pas que cette vérité-là soit sortie de cette façon-là. Alors, on a eu un problème technique majeur. Alors, le technicien ne comprenait absolument pas comment régler le problème. Il était à quatre pattes à un moment donné, en dessous, dans les boîtes à fil. Il a tout refait le système en vérification d'un bout à l'autre. Pas de solution, impossible de démarrer ça. Ça ne marchait pas. Il y a eu un 30 minutes sous pression incroyable. Puis là, les membres d'église étaient dans la salle. Mais personne ne s'est plaint. Ça, il l'a remarqué aussi. Personne ne s'est plaint, là. Normalement, il y aurait eu des commentaires disgracieux de la part des organisateurs ou de d'autres dans la salle qui attendaient. Mais non, les gens dans la salle ont attendu. Même, j'ai vu le coordonnateur, M. Arsenault, aller voir le technicien et dire, « Faites-vous-en pas, vous allez voir, ça va se régler. Faites-vous-en pas, vous allez voir, ça va se régler. » Lui, il était en contact avec quelqu'un plus haut. Alors, il savait que ça allait se régler, oui. Mais le technicien, lui, il ne savait pas. Alors, il est même venu complètement en sueur. Il a tout mouillé son linge tellement il était stressé. Puis finalement, il s'est passé quelque chose, ça a réussi. Mais au-delà de toute espérance. Parce que pendant ce temps-là, dans la salle, il y a quelques personnes qui ont parlé entre eux, entre elles, pas fort, heureusement, mais la plupart, vous savez, j'ai remarqué une chose, la plupart avaient la tête baissée. Moi, je savais ce qu'ils faisaient. Il y a eu plusieurs appels téléphoniques, la centrale devait être occupée en haut. Et Dieu a ouvert les portes parce que la solution est arrivée, puis il n'en revenait pas de quelle façon c'était arrivé. On a eu le film. Tel qu'on devait l'avoir. Dieu est intervenu, il n'a pas laissé aller les choses. Le technicien était vraiment impressionné, hein, sans comprendre ce qui arrivait, mais là, il voit des choses arriver dans l'Église qu'il ne voit pas autrement. Il voit des comportements dans l'Église qu'il ne voit pas ailleurs ou de la part d'autres groupes. Il a goûté à la culture de la famille de Dieu. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment touchant de voir ça. Et nous, on a aussi vécu cette année, encore davantage, comment c'est bon d'être ensemble dans la famille de Dieu. On a à lutter contre l'adversaire des fois parce qu'il essaye encore même là d'amener des divisions ou des accusations ou tout ça, mais Dieu a fait en sorte que les choses se règlent et puis s'organisent de bonne façon. Dieu a béni quand même, même s'il y a eu certaines choses difficiles. Mais on a vécu dans l'atmosphère de la famille de Dieu. Et là, ce qui arrive, là, je ne vous apprends rien, mais ce qui arrive, c'est qu'à notre retour chez nous, on n'est pas sur le site de la fête. On est dans le monde qui n'est pas le monde de Dieu. Et ce n'est pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, ça a été un peu un choc. Je ne sais pas, peut-être plus cette année que d'autres, ou peut-être que le monde a changé plus qu'avant. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, quand je suis revenu chez moi, quand je suis retourné, par exemple, la première journée au centre d'achat pour aller prendre mon exercice en faisant le tour du centre d'achat à pied, du centre commercial, ça a été un choc. Parce que je levais la tête, je regardais les gens, les visages étaient froids. Des fois, les visages étaient même durs. Ou des fois, les gens ne voulaient pas regarder. Les gens se croisaient, c'était la course folle, même dans le stationnement. Là, c'était plus du tout le même rythme de vie, ni la même atmosphère autour. Ça m'a tellement frappé que j'ai pas resté longtemps. J'ai resté peut-être 8-10 minutes, puis je suis retourné à la maison. J'ai dit, bon, on reprendra ça plus tard. Il y avait une marche, là, et la marche était haute entre l'atmosphère de la fête et ce qu'on retrouvait autour de nous. Alors, je suis pas resté longtemps. J'ai reçu un petit commentaire cette semaine de Mme Louise Daudier. Je vous en donne un petit bout pour montrer qu'elle aussi, elle a fait une fête, vécu une fête formidable. Puis en même temps, la marche était haute quand elle s'est retrouvée tout seule dans son petit monde, sans les frères. Bon sabbat, M. et Mme Brochu. Après la fête des tabernacles, j'éprouve toujours un grand vide quand tous les membres de ma grande famille spirituelle sont repartis chacun chez eux. Quelqu'un me mentionnait ça tantôt au début de l'Assemblée. On manque les nouvelles personnes qu'on a connues à la fête. Parce que certains ont fait vraiment ce qu'on leur avait recommandé, d'aller vers des nouveaux, et ils ont créé des nouveaux liens, et c'est la famille de Dieu qui se solidifie. Alors, elle dit qu'elle manque ses frères. Tellement l'atmosphère était empreinte de fraternité, de joie, d'empathie et de sensibilité devant les épreuves de plusieurs d'entre eux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de prières à formuler. Alors, son travail commence. Je trouve ça bien. Elle retourne à la maison, elle a du temps à elle. Elle dit, j'ai beaucoup de prières à formuler pour plusieurs que je ne vois pas souvent. Et je sais qu'elle prie pour les besoins de chacun. J'ai connu de merveilleux moments et voilà que c'est déjà passé. Je suis un peu triste, mais je me réjouis d'avance de renouveler l'événement de fête en fête, d'année en année, en priant que Dieu m'accorde toujours la possibilité d'y être, que ma santé soit bonne et me permette d'y aller. Amitié fraternelle à vous et votre épouse, que Dieu vous protège en tout temps, Louise Daudier. Alors, voyez-vous, même réaction un peu. Difficile le retour, parce qu'on perd cette belle atmosphère-là et on tombe dans un autre monde. D'où le sermon d'aujourd'hui, d'où le titre du sermon d'aujourd'hui, « Gardez l'élan de la fête ». Parce qu'on est revenu de la fête sur une lancée spirituelle enthousiasmante. Et le titre du sermon aujourd'hui, « Gardez l'élan de la fête ». Ou en d'autres termes, entretenez cet enthousiasme au cours des mois qui approchent, au cours des mois d'hiver qui sont devant nous. Pour garder puis pour nourrir l'enthousiasme de la fête dans les jours mauvais où nous entrons, ça ne vient pas tout seul, il faut faire quelque chose. Et il nous faut planifier, il faut faire un plan pour les mois d'hiver, pour rester proche de Dieu, pour avancer spirituellement. Et on doit décider, dès le retour de la fête, de faire des efforts constants pour rester proche de Dieu, pour continuer d'apprendre, pour continuer de le prier, puis continuer d'étudier, puis de développer son caractère. Parce que si on ne fait pas ça, on va ralentir spirituellement. Et plus le temps est court, plus les événements bouleversants sont autour, plus il y a de pression de la société autour contre l'Église, contre nous, contre les façons de vivre de Dieu, plus on doit être fort, et non pas le contraire, pour être capable de passer à travers ça. Sinon, si on ne fait pas ça, il y a un ralentissement spirituel et il y a un assoupissement. Et vous savez ce que fait l'assoupissement? Fait s'endormir et fait ne pas utiliser l'huile comme les vierges sages doivent l'utiliser. Et s'il y a cet assoupissement-là qui s'installe dans les mois d'hiver, ben, on est moins prêt, ou même on n'est pas prêt pour les choses qui viennent. Et il y a des choses qui s'en viennent. Proverbe 20. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20 et le verset 4. À cause du froid, et le froid s'en vient, les grandes froidures d'hiver ici, dans notre hémisphère nord, et c'est un temps où tout s'arrête, la végétation s'arrête et tout ça, et parfois on a tendance à ralentir certaines choses, mais il ne faut pas ralentir sur le plan spirituel, il faut garder les lampes allumées. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alors, voyez-vous, il y a une équation directe ici entre le fait de travailler pour qu'il y ait quelque chose à récolter à un certain moment donné. Et nous, on s'en va là vers les fêtes de Dieu du printemps. C'est ça notre prochain objectif. Et c'est pour ça qu'il nous faut travailler d'ici là, sur le plan spirituel, pour nous préparer, pour avoir de quoi récolter quand on va arriver à la Pâque et quand on va arriver à la fête des pains sans levain. C'est vraiment important qu'on en soit conscient et qu'on pose les gestes qu'il faut pour garder l'élan de la fête dans les mois plus sombres qui s'en viennent. La clarté est réduite sur le plan physique, dans l'hémisphère ici. Et dans le monde, la clarté est réduite aussi parce que c'est le monde des ténèbres qui s'installe de plus en plus également. Alors nous, en tant que lumière du monde, il nous faut garder nos lampes allumées, rester proches de Dieu et nous aligner, diriger vers les fêtes du printemps avec zèle. Tirer le maximum de chacune de nos journées pour être prêt pour la Pâque, pour être prêt pour les pains sans levain. Ça fait peut-être bizarre que je vous parle de ça tout de suite, mais on est rendu. Il n'y a pas longtemps, je vous disais, la fête des tabernacles s'en vient. Quelques mois passés, je vous disais ça, et je voyais les sourires, mais elle est déjà passée, la fête. C'est la même chose pour la fête des pains sans levain et de la Pâque. Elle est à nos portes. Alors, soyons prêts. Établissons nos priorités pour vraiment bien nous préparer. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Vous savez, à la fête des tabernacles, puis au dernier grand jour, Dieu nous a fait énormément de bien. Dieu nous a fait énormément de bien. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, on va commencer au verset 4. Paul dit ici, « Je rends à mon Dieu, de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Tout ça nous a été donné, et la fête, et la compréhension, la connaissance de Dieu, sa miséricorde, son aide, sa protection, ses guérisons, et ainsi de suite. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Et regardez à la fête comment nous avons été comblés spirituellement par la nourriture que nous avons eue, par la richesse des échanges avec les autres également, par les prières que nous avons pu adresser à Dieu et qui ont été répondues. Dieu s'est manifesté durant cette fête de façon vraiment spéciale. Il dit en lui, « Vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. » Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et à la fête, si vous avez remarqué, le focus ou l'attention a été mis sur la vision de ce qui s'en vient. Et les ministres ne s'étaient pas concertés pour dire un va parler de telle chose, l'autre va parler de telle autre. Il y a un grand chef d'orchestre en haut qui fait en sorte que tout va dans le même sens. C'est lui qui inspire les sermons qui sont donnés et les sermonnettes. Et ça a été dans ce sens-là d'avoir la vision du monde à venir pour nous donner la force de passer à travers les étapes qui viennent. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et il a été solidement établi à la fête, dans le cœur de ceux qui voulaient faire sa volonté, qui étaient en train de continuer à se repentir et qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fort ce qu'il dit ici parce que Dieu confirme qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous rendre au but. C'est tout qu'un encouragement, là, malgré les circonstances de notre vie, quelles qu'elles soient. à notre retour de la fête, et quelle qu'elle soit durant les mois à venir, durant l'hiver jusqu'aux fêtes du printemps. Il dit, Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vous rendre à terme. Et la phrase suivante, moi, je l'ai soulignée en vert, la première partie, parce que c'est une promesse, et les promesses dans ma Bible, je les souligne avec un petit trait vert. Il vous affermira, en parlant de Dieu, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Quelle promesse extraordinaire! Il va vous affermir jusqu'à la fin. Bien sûr, si nous sommes là, bien sûr, si nous avons un cœur enseignable, bien sûr, si nous sommes disposés à apprendre, si nous sommes disposés à changer nos travers, et nous en avons tous à changer, à devenir plus humbles, à dire, Dieu, montre-moi mes fautes et donne-moi la capacité de changer. Il dit, si vous avez cette attitude-là, il va vous affermir aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Pourquoi qu'on sera irréprochable rendu là? Ce ne sera pas par notre force. C'est parce qu'au jour de Jésus-Christ, comme c'est écrit ailleurs, si nous sommes en train de nous purifier puis de revêtir le Christ, comme c'est écrit, il va nous rendre parfaits ce jour-là. Et on sera capable, à partir de là, de ne plus jamais manquer notre coup, ne plus jamais pécher, ne plus jamais nous tromper, pour que vous soyez irréprochables au jour de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors oui, Dieu nous a fait beaucoup de bien à la fête. Il nous a donné ce dont nous avions besoin pour passer les mois d'hiver, pour nous rendre vers la merveilleuse fête de la Pâque au printemps et la fête des pains sans levain. D'ailleurs, j'ai reçu un témoignage qui m'a beaucoup touché aussi, d'un couple de l'Ontario qui ont assisté à la fête cette année à Orford avec nous. Et j'ai trouvé ça formidable de voir ces paroles-là. Ça m'a vraiment encouragé. C'est M. Harold Joseph. Son nom de famille, c'est Joseph. Et en plus, ce monsieur-là m'a impressionné parce qu'une journée, je suis arrivé dans le stationnement après l'assemblée, puis le monsieur avait loué une voiture et il s'était fait accrocher. Sûrement pas par un membre d'église parce que l'autre était parti. Donc, je sais qu'il y avait des travailleurs dans le coin aussi et tout ça. Il avait fait heurter son véhicule. Et là, comme il n'est pas du Québec, il voulait savoir comment on fait par rapport aux assurances et tout ça. Et bon, je suis allé le voir, puis il y a des hommes qui sont approchés avec moi. Puis tout de suite, M. Joseph s'est empêché de me dire, il me dit, « M. Brochu, n'ayez pas peur. Ça, c'est juste de la tôle. Moi, je suis ici pour me réjouir devant mon Dieu. Ça ne gâchera pas ma fête. » Ça m'a vraiment impressionné de bonne façon. Ça m'a touché de voir quelqu'un qui était vraiment conscient de la raison pour laquelle il était là. Il était là pour apprendre à craindre Dieu, pour apprendre à se réjouir devant Dieu, à la fête de Dieu. Ce problème-là, ça dérangeait? Oui. Ça va coûter quelque chose? Oui. Mais je suis ici pour me réjouir, ça ne me dérangera pas, je ne me laisserai pas avoir par un piège comme ça. Et Dieu étant Dieu, il y a un monsieur de l'église qui est arrivé d'ailleurs, qui est un ancien locateur d'auto. Alors, le monsieur Joseph, c'était une voiture louée. Il lui a dit comment faire. Et tout s'est réglé là. La réponse est venue. Il y avait le problème. La réponse est venue. Mais entre les deux, M. Joseph m'avait dit, « Quêtez-vous pas, M. Brochu. Moi, je continue à me réjouir. Ça ne me dérangera pas, ça, là. » Et voici ce que M. Joseph, avec son épouse, a envoyé comme petit commentaire. « Bonjour à vous. Je désire envoyer ce merci spécial à vous et à votre impressionnante équipe qui avait préparé cette fête joyeuse au Québec. Mon épouse et moi-même avons été débordants de joie de voir tant de frères se réunir et prendre part aux activités de la famille de Dieu. Chaque sermon qui a été présenté a eu un impact profond dans ma vie. Le monsieur était là pour apprendre et il a appris. Quand on dit à Dieu, montre-moi, ouvre mes yeux, et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. C'était tellement puissant. J'en ai eu le cœur touché. J'ai appris quelque chose de nouveau de chaque message qui a été présenté à la fête. Mon épouse et moi allons continuer à prier pour vous et votre équipe, afin que Dieu continue d'accomplir avec éclat en vous son œuvre admirable. Nous vous aimons tous, M. et Mme Joseph. » J'ai trouvé que c'était un témoignage qui valait la peine de vous donner, parce que c'est tellement encourageant de voir là, que des gens vont à la fête avec le cœur tourné vers Dieu, de voir comment ils reviennent, comme j'ai vu aussi ici, enthousiasmés sur cet élan-là dont je vous parle aujourd'hui. Ils ont apprécié ce que Dieu a fait pour eux et ils réalisent que Dieu leur donne tout ce dont ils ont besoin pour se rendre au bout. Alors nous, on doit continuer à garder cet élan-là, à travailler chaque jour pour nourrir cet enthousiasme-là, pour connaître Dieu davantage. On n'a pas fini de le découvrir. D'ailleurs, on n'aura pas assez de l'éternité pour le connaître. On n'aura jamais fini de connaître cet être absolu. On va nourrir cet enthousiasme-là en travaillant à le connaître davantage, à mieux le servir, à nous purifier, à continuer à changer, à éliminer l'orgueil, l'esprit critique et toutes ces choses-là de nous pour devenir une famille encore plus unie, pour être agréable à notre Père, puis être proche de lui, puis être proche les uns des autres, pour nous encourager, nous servir, nous aider. Deux Pierre, s'il vous plaît, chapitre 1. Le deuxième livre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1. 2 Pierre 1 et le verset 3. Ça va un peu dans le même sens que ce qu'on vient de voir, que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il faut le prendre et s'en servir, et continuer à l'utiliser. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, il nous a donné, il répète encore, tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est encourageant. Parce que des fois, on se sent tellement faible. Hein? Si vous êtes comme moi, vous vous sentez impuissant parfois, et même souvent. Puis, vous savez quoi? C'est une bonne chose. Parce que si on se sent impuissant devant une situation, devant des problèmes, c'est qu'à ce moment-là, on a juste un endroit où on peut se tourner. C'est vers le haut. C'est vers le Tout-Puissant. Et ça, Dieu aime qu'on apprenne à compter sur lui. Parce que c'est une des grandes leçons de la vie et une des grandes leçons d'humilité. C'est pas nous qui réglons les problèmes. On demande son intervention pour que sa volonté soit faite. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et plus on se débarrasse du vieil homme, plus on se débarrasse de notre façon mauvaise de faire les choses, plus on revêt le Christ, plus on devient comme le Christ, plus on revêt la nature de Dieu, plus on devient comme Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et ça, c'est un de nos gros problèmes à tous. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire la force de caractère. La vertu dont il est question ici, quand vous allez voir dans le texte, c'est la détermination, la force de caractère. Une fois qu'on sait que le vrai Dieu existe, qu'il nous a appelés, qu'il y a une voie de vie à suivre pour lui plaire, il faut déterminer, je vais la suivre. Comme David a dit à un moment donné, « J'ai déterminé de marcher dans tes sentiers. » À vos efforts, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Et pour augmenter la connaissance, on fait quoi? On parle à Dieu régulièrement et on approfondit sa parole, on l'étudie. À la connaissance, la maîtrise de soi. Là, c'est la mise en pratique maintenant de ce qu'on a appris. Et ça ne vient pas tout d'un coup. Parce que la maîtrise de nous-mêmes, elle n'est pas automatique et elle n'est pas une fois pour toutes. On a des hauts, on a des bas, c'est des luttes. Il faut continuer. À la maîtrise de soi, la patience. La patience, ça le court seulement dans le temps. Hein? On ne peut pas être patient en un instant comme ça. La patience, ça vient avec les épreuves, avec les choses où on doit passer du temps avant d'arriver à quelque chose. Ça, c'est la patience doit s'exercer à ce moment-là. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Alors, c'est pour ça que d'ici la fête de la Pâque, il ne nous faut pas nous asseoir sur nos lauriers simplement en rêvant des beaux souvenirs de la fête, mais il faut déjà commencer à bâtir pour nous préparer pour la fête du printemps, pour la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Et si on fait ce qui nous est marqué ici, on ne sera pas oisif, on ne sera pas négligent, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si on ne le fait pas, on perd la vision des choses. On perd même le beau qu'on a vécu à la fête. Et ça devient moins clair. Et on est absorbé par les choses autour et on est dérangé par les choses autour et on peut être attiré par les choses autour parce qu'on voit de moins en moins bien. Même pour ceux de l'Église. Ça ne s'adresse pas au monde, ça s'adresse aux gens de l'Église. Là. On perd la vision des choses. Et vous savez que dans la Bible, il y a un groupe de personnes auxquelles Dieu reproche d'être aveugle, de ne plus voir ce qu'il voyait avant. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, faut pas les mettre en oubli. Faut remercier Dieu de nous avoir purifié des anciens péchés qu'on connaît, de nous aider à les combattre quand ils reviennent. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'adversaire n'est pas fou. Il sait que la recette qui a marché autrefois avec vous, elle va marcher encore parce que vous aviez cette faiblesse-là. Même chose pour moi. S'il sait qu'il y a telle faiblesse que j'avais avant, pour laquelle j'ai tombé avant d'être baptisé, il va revenir avec le même scénario, peut-être présenté un peu autrement, mais il sait que c'est mon point faible. Alors, sur quoi vous pensez qu'il va travailler? Sur ma faiblesse à moi. C'est peut-être pas une faiblesse pour vous, mais ça peut être une faiblesse pour moi, dans mon cas. Alors, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On peut remercier Dieu de nous avoir purifiés, mais on peut lui demander de nous ouvrir les yeux pour qu'on voit les tentatives de l'adversaire de nous ramener à nos anciens péchés, puis en même temps de nous montrer ceux qu'on a encore à découvrir. Dieu est gentil parce qu'il ne nous donne pas tout d'un coup de voir tout ce qu'on a changé. Ça serait décourageant. Mais comme un bon papa, il va graduellement. Il va graduellement. Et puis, il nous donne ce qu'on peut prendre. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne comprend pas en cours de route dans l'Église ou dans la Bible. Et ce qu'on doit faire dans ce temps-là, c'est les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas clairement, de les mettre sur la tablette, puis de travailler sur celles qu'on peut comprendre pour se fortifier là-dedans. Et en cours de route, Dieu va nous donner les réponses sur les autres choses qu'on a à comprendre. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel et votre élection, parce que vous avez été choisi. Dieu vous a attiré à Christ et vous a appelé. Mais le Christ vous a choisi ensuite. Parmi tous ceux qui ont été appelés, vous avez été choisis. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes là au sabbat. Vous êtes en train de travailler à faire mieux sa volonté, à développer son caractère. Donc, il vous a choisi. Vous avez été appelé, vous avez été choisi. Maintenant, il nous reste à être fidèles jusqu'au bout. Parce que ceux qui vont être avec le Christ, lorsqu'il va revenir, ce sont ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été choisis parmi tous les appelés, et ceux qui, une fois choisis, ont démontré qu'ils voulaient être fidèles jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré qu'ils ne sont pas parfaits tout d'un coup. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il dit, faites ça, moi, être avec vous autres. C'est une promesse aussi. On pourrait mettre un petit trait en vert. Vous ne broncherez jamais si vous faites ça. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà le chemin. Voilà la porte. La force, ça ne vient pas de nous autres, mais on a une démarche à faire. On a un rôle à jouer pour que Dieu nous donne de réussir. Maintenant, comment on peut garder l'élan de la fête puis bien nous préparer aux fêtes du printemps, être capable de traverser les tempêtes, parce qu'il y aura des tempêtes là d'ici à la Pâque. Je vous le dis, il y aura différentes sortes de tempêtes. Pour nous préparer à affronter ces tempêtes-là, comment? La recette de base, très, très simple. Prière chaque jour. 2-3 fois par jour. Ne pas commencer une journée sans prier Dieu. Ça ne veut pas dire de prier tout de suite en débarquant du lit. Certains le font. Des fois, certains ont besoin de prendre un café pour que les circuits soient plus clairs. D'autres ont moins besoin de café, ou ainsi de suite. Mais je veux dire, commencer la journée avec Dieu, en priant Dieu. Et terminer la journée devant Dieu aussi. Puis comme M. Appartient nous disait souvent, demander à Dieu, avant d'aller au lit, que Dieu éloigne les esprits mauvais, pour ne pas qu'ils diffusent des choses négatives en vous, qui dérangent, ou qui vous amènent des rêves que vous n'aimeriez pas avoir. Matthieu 14, regardez l'exemple du Christ. Le Christ, c'est notre exemple parfait en tout. Hein? Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, versets 22 et 23. Aussitôt après, il obligea, en parlant du Christ, les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alors le Christ priait chaque soir son Père. Pourtant, le Christ était Dieu dans la chair humaine, Emmanuel. Mais il dit, ce que je fais, c'est par la puissance de mon Père que je le fais. Et nous, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut prier le matin et le soir, et si possible, à d'autres occasions. Mais si on fait ça de même, c'est que dans le jour, la ligne reste ouverte. On a commencé notre journée avec Dieu. Et quand on vit d'autres choses, ou des situations embêtantes, où on a besoin d'avoir l'aide de Dieu, on peut simplement lui demander dans notre tête, si on est au magasin, si on est sur la route, si on est ailleurs, on peut lui demander son aide et sa sagesse dans différentes circonstances, et il va nous répondre parce qu'on est déjà en contact avec lui. Et c'est ce qu'il veut. C'est ça, marcher avec Dieu. Nos journées sont avec lui, où qu'on soit, à notre travail, en voyage, au repos, ainsi de suite. Et c'est ça, garder nos lampes allumées, comme M. Hernandez nous mentionnait dans un superbe sermon qu'il nous a donné dernièrement. Alors, comment garder l'élan de la fête? Oui, ne pas réduire la prière, mais garder notre rythme tout au long de l'hiver. Et l'étude quotidienne aussi. Pas juste lire la Bible, l'étudier, prendre le temps, voir le sens des mots, avoir une concordance, voir les autres versets qui se rapportent à ça. Se nourrir de la parole de Dieu au lieu de se nourrir du monde. Il faut vraiment faire la distinction, là où on est rendu. Il faut vraiment se nourrir de la parole de Dieu, de la culture de Dieu, et non pas des divertissements du monde, de la télévision, des films et des choses vaines qui grugent notre temps, nos énergies, et qui nous amènent à penser, même contrairement à Dieu et contrairement à ses voies. Parce que ce sont des moyens que l'adversaire utilise pour mobiliser les gens, pour que les gens soient ailleurs que dans les choses de Dieu. On a un choix à faire. On a un choix à faire, constamment. Vous savez, il ne faut pas, comme je disais tantôt, il ne faut pas simplement s'asseoir après la fête en disant, on va attendre de voir les choses qui vont se passer. Non, il faut se préparer. Comme on se préparait, vous avez sûrement, tout le monde, vécu l'expérience avant les examens de fin d'année. Qu'est-ce qu'on fait avant les examens de fin d'année? Il ne doit pas y en avoir un ici avant les examens de fin d'année qui étudiait moins que durant l'année, hein? Même au contraire, on étudiait pas mal plus parce qu'on savait que l'examen final était proche. Alors, on mettait le paquet. Parfois, on passait des nuits. Moi, j'en ai passé des nuits blanches à étudier puis à réviser des textes, puis j'avais de la misère à m'en rappeler puis à faire des calculs puis tout ça. Pourquoi? Parce que les examens étaient proches puis on voulait réussir. Pourquoi ça serait différent avec l'entrée dans le royaume de Dieu? Absolument pas. Dieu veut qu'on se prépare et qu'on soit de plus en plus prêt à mesure qu'on voit les choses approcher. Proverbe 13. Proverbe chapitre 13. Et on les voit s'approcher. On voit les choses changer dans le monde autour. Proverbe 13 et le verset 4. On va regarder rapidement quelques petits proverbes qui se rapportent à ça. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça, c'est vrai sur le plan physique et c'est vrai sur le plan spirituel. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, il y a des gens qui ne veulent pas travailler malheureusement et qui ne veulent pas gagner pour avoir quelque chose, mais ils veulent avoir le quelque chose en question. Parfois, ils vont s'arranger pour l'avoir de toutes sortes de façons. Alors, ils ont des désirs, mais ils n'ont jamais la possibilité de réaliser tous leurs désirs. Ils ont tellement le temps d'avoir des désirs qu'ils n'ont pas le temps de travailler pour payer ce qu'il faut pour en réaliser quelques-uns. Alors, c'est un petit peu ce qu'il dit ici. C'est vrai sur le plan physique, mais c'est vrai sur le plan spirituel. Je peux désirer de tout mon cœur le royaume. Je peux parler abondamment du royaume. Je peux parler abondamment de la Bible. Mais si je ne m'y prépare pas, ce sont de vains désirs. Il faut que ce soit clair dans mon esprit. Dieu ne me donnera pas d'entrer dans son royaume parce que j'y ai pensé comme une bonne pensée et parce que c'est une chose que j'ai désirée beaucoup. Non, si je la désire vraiment, je vais faire ce qu'il me dit de faire pour y arriver, tout simplement. Et il ne me laissera pas rentrer autrement. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Proverbe 12, verset 11. Proverbe 12, verset 11, la page précédente. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Et c'est beau quand on voit un beau champ de labour, là. Si vous avez déjà fait des labours vous-même, quand on laboure la terre, ça sent bon. Et il y a une fraîcheur, puis il y a une senteur de terre qui se dégage, qui est vraiment spéciale. Alors, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui, au lieu de faire ce qu'il doit faire pour avoir une récolte, s'amuse à passer son temps à faire d'autres choses, quand vient le temps de la récolte, il n'y en a pas de récolte. Et là, ça ne va pas bien. Et là, ça ne va pas bien parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il aimerait avoir. C'est encore une loi qui est pour nous. Si nous nous examinons pour changer, à ce moment-là, nous nous cultivons, pour ainsi dire. On laboure le jardin de notre vie. On change. On tourne ça de côté. On enlève ce qui n'est pas bon dans notre vie. On enlève la roche et ce qui dérange pour la moisson, ce qui empêche la croissance des choses spirituelles de Dieu. On se cultive et on se prépare pour la Pâque et on se prépare pour la fête des pains sans levain. En devenant plus humble, terre pardonnée, terre qui veut continuer à être pardonnée, faire la volonté de Dieu. On devient davantage rempli du Christ, on laisse vivre sa vie en nous, puis on est moins à risque à ce moment-là par rapport à Satan, parce qu'on est en train de travailler aux choses de Dieu. Puis Dieu nous a dit, on l'a vu tantôt, qu'il va nous affermir puis nous amener à terme si on fait ça. Mais si on n'est pas en train de le faire, l'adversaire a beau jeu de semer toutes sortes de doutes dans notre esprit. On a le temps de penser à toutes sortes de choses. On a le temps de s'occuper de la vie des autres au lieu de s'occuper de la nôtre. On a le temps de critiquer à gauche et à droite. Et on a le temps de créer des problèmes ou des blessures. Non, c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est chacun de nous par rapport à lui et ensuite sa famille ensemble, s'aider, s'encourager, s'entraider. Proverbe 14, verset 23. Il y a beaucoup là-dedans. Proverbe 14, verset 23. « Tout travail procure l'abondance. Tout ce que vous allez faire au cours des mois qui viennent avec cœur, avec zèle, parce qu'il dit, aimez-le de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre pensée. Tout ce que vous allez faire avec zèle, Dieu va le bénir. Tout travail procure l'abondance, et vous aurez l'abondance spirituelle. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, hein? Il y a des gens qui peuvent parler de la Bible beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que vous, beaucoup mieux que nous ensemble, qui peuvent en parler 20 heures par jour, puis ça a l'air beau. Ça a l'air beau, ça a l'air beau. Ils peuvent la citer par cœur, alors que nous, on ne peut pas la citer par cœur. Mais il dit bien que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont tous entrer dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. C'est encore simple, simple, simple. Simple, simple, simple. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, ça c'était le verset 23. Alors ça implique donc une discipline. Ça implique de bien établir nos priorités là, pour l'hiver. Et ensuite, d'agir, mais de façon constante, chaque jour. Pas laisser passer une journée sans prière. Pas laisser passer une journée sans étude biblique. Trouver le temps. Trouver le temps. Prendre le temps. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si on se relâche dans notre approche de Dieu, on détruit notre cheminement par rapport à lui. On s'éloigne de lui. Et on risque à ce moment-là de recommencer à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire ou qu'on ne se rend pas compte qu'on ne devrait pas faire. Plus on est proche de Dieu, plus il nous montre la voie à suivre. Moins on est proche, moins on voit clair. On devient aveugle, comme on a vu tout à l'heure dans un autre passage biblique. Et dans ce cas-là, on peut risquer aussi de devenir victime de doutes. Parce que l'adversaire, son arme principale, c'est les doutes. Semer des doutes concernant un, concernant l'autre, concernant l'Église, concernant M. Meredith, concernant M. Ames, concernant qui vous voudrez. Si l'adversaire peut semer des doutes puis les faire circuler, ça, c'est une arme de ses armes préférées. Alors, Proverbe 18, verset 9, comme on a vu, il ne faut pas se relâcher dans notre travail d'être proche de Dieu, de faire sa volonté. Et là, à ce moment-là, Dieu nous donne la solidité qu'on a besoin. Un peu plus loin, Proverbe 24. Proverbe, chapitre 24, pardon. Et le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'en ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Et ici, je parle de la disette spirituelle. Si je ne me nourris pas du Christ, si je ne le supplie pas de vivre sa vie en moi, si je ne continue pas à m'approcher de lui, je m'affame, pour ainsi dire. Je deviens plus faible spirituellement. Et je suis à risque. Alors, on n'a pas de temps à perdre, écoutez. M. Hernandez n'a parlé, M. Meredith n'a parlé. Nous n'avons plus de temps à perdre devant la télévision, devant les divertissements du monde, devant les choses de la société qui ne sont pas selon Dieu. Sinon, nous n'aurons pas ce qu'il faut spirituellement dans les jours difficiles qui sont là, dans les jours difficiles qui approchent et dans les jours difficiles qui sont déjà sur nous et qui commencent à descendre sur nous. Proverbe 63. Psaume 63, un peu auparavant. Demandez à Dieu une chose, puis vous allez voir, il va vous répondre. On l'a demandé durant la fête et il nous a répondu, et ça a été le cas pour plusieurs personnes. Demandez à Dieu de se manifester dans votre vie. Demandez-lui de vous montrer quelle est sa volonté et de vous aider à la faire. Juste ça, c'est déjà énorme. Tout est contenu là-dedans. Père, ouvre mes yeux, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi la force de le faire. J'ai besoin, sans toi, je peux rien. Vous savez, on a accès à son trône. On a accès à son trône de miséricorde, comme la Bible dit, pour être pardonné, parce qu'on est loin d'être encore parfait. Et chaque jour, on doit demander pardon pour toutes sortes de choses et s'examiner. Mais il dit, on peut aller devant son trône de miséricorde pour être pardonné, puis pour être secouru. Et il ne demande pas mieux de nous secourir, comme un bon papa qui ne demande pas mieux que de secourir sa petite fille ou son fils qui sont mal pris, qui dit « Papa, viens m'aider ». Il refuse pas de nous aider, absolument pas. Psaume 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Et dans la version originale, c'est « Je te cherche tôt le matin, early ». « Je te cherche tôt le matin, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau ». Et comme j'ai expliqué à la fête, nous sommes dans une terre, dans une société sans eau, sans esprit de Dieu autour de nous. Nous sommes dans cette terre desséchée. Et comme David, nous devons chercher Dieu, avoir soif de lui, avoir soif de son Saint-Esprit. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et on l'a vu à la fête et on la voit encore. Et on peut lui demander de la manifester dans nos vies. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, ça c'est quand je me réveille la nuit, à qui je pense, à quoi je pense, pourquoi est-ce que je ne me tourne pas vers lui et lui parler un peu, puis lui demander de m'aider à me rendormir? Il va vous répondre, vous allez voir, et ça va vous garder en contact avec lui. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. C'est encore une promesse. Si je suis tourné vers lui, lui sera tourné vers moi. Ceux qui me cherchent me trouvent, c'est ça que Dieu dit. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Psaume 119, David encore. David est un exemple formidable. Psaume 119. S'il y en a un qui a appris à compter totalement sur Dieu, c'est bien David. Parce que David, dans de nombreuses circonstances de sa vie, n'avait aucune issue aux problèmes qu'il rencontrait. Aucune façon d'en sortir. Mais il a appris à compter sur Dieu en toutes circonstances. Et remarquez bien, Dieu l'a toujours béni. Dieu l'en a toujours délivré. Pas toujours sur le coup, pas toujours sur le moment même de sa prière. Des fois, ça a pris des semaines, voire même des mois. Mais Dieu l'a toujours délivré et l'a toujours protégé. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Et c'est ça qu'on va faire durant l'hiver, durant les mois qui sont devant nous. Verset 10 et 11. Je te cherche de tout mon cœur. Voyez-vous, ce n'est pas d'une façon négligente ou juste par habitude. Faire un petit peu d'étude chaque jour, lire un petit passage, puis bon, mon étude est faite. Non. Je te cherche de tout mon cœur. Je cherche à comprendre, j'approfondis. J'apprends par cœur certains passages clés de la Bible pour être capable de les citer au besoin et que ça reste avec moi. Peut-être pour le jour où je ne pourrai plus avoir une Bible dans mes mains, que je puisse me rappeler ce que tu as écrit dans ta parole, que ça me revienne. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, parce que je suis encore faible. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voyez-vous, ce n'est pas juste une question de connaissance de la parole, mais c'est afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui connaissent très bien toute la Bible, mais qui n'ont pas tout leur cœur à faire tout ce que Dieu dit. Et ils ne remplissent pas les conditions de ce verset-là ici, même si ça peut sembler très beau de l'extérieur. Versets 25 à 29, même psaume 119. « Mon âme est attachée à la poussière. Oh, qu'on le sait qu'on est limité et impuissant. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. » Mais regardez bien, Dieu m'exauce si je lui raconte mes voies, si je lui explique en détail ce par quoi je passe, mes besoins, mes sentiments, mes émotions, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas. Et là, il va me répondre, parce que je fais comme un enfant qui fait confiance à son père, qui va lui parler en détail de ce qu'il vit. Je te raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Et on a des chagrins, tous et chacun d'entre nous, à un moment ou l'autre, par rapport à des choses qu'on vit dans notre famille ou tout ça. On a des chagrins. Mais Dieu nous aide à passer à travers ces chagrins-là. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Voyez-vous? Donne-moi de ne pas être menteur. Parce que le père du mensonge, on sait c'est qui. On sait que c'est comment il a traité l'humanité depuis le début, comment l'humanité souffre à cause du mensonge que Satan a fait aux premiers parents. Alors, personne dans l'Église ne doit vivre de mensonges d'une façon ou de l'autre, ni de petits mensonges, ni de grands mensonges. Nous devons devenir des enfants de pureté et des enfants de vérité. Verset 33. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Et nous, on dit « pour que je la retienne jusqu'à la Pâque, là, qu'on se mette cette étape-là devant nous, qu'on avance, qu'on progresse, et ensuite jusqu'à la fin. » Verset 55, 56, même psaume 119. « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Et nous, ce qu'on a commencé à faire, mon épouse et moi, c'est qu'on a des petits MP3, là, et parfois, lorsqu'on a de la difficulté à dormir, on enregistre des sermons là-dessus, et plutôt que de laisser notre pensée errer à gauche puis à droite, puis laisser venir toutes sortes de problèmes, puis là, l'adversaire s'en sert pour mettre plus de problèmes qu'il y en a, puis de déranger, on se met un sermon dans nos oreilles, on l'écoute pendant 15 minutes, une demi-heure, et tout ça, et quand on commence à s'endormir, on le referme, on s'en va. Mais on s'est mis des belles choses, et on s'endort, mais on s'est mis des belles choses dans l'esprit. On n'a pas laissé notre esprit errer et être disponible à l'adversaire pour y mettre ce qu'il veut. Parce que quand notre esprit se promène, qu'on n'a pas quelque chose de précis à penser, lui a beau jeu, la porte est ouverte pour nous envoyer des émotions, des pensées, quelque chose que quelqu'un a dit il y a 2 mois qui nous avait touchés. Et là, les mêmes sentiments négatifs reviennent et ainsi de suite. Non, on laisse ça en dehors et on écoute les belles choses de Dieu, puis après ça, on se rendort là-dessus. C'est ce que la Bible nous mentionne. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre. Et dans la version originale, c'est encore plus précis. This has become mine. Ceci est devenu moi. Ceci, j'ai été transformé en cela, car j'observe tes ordonnances. Donc, je suis devenu ta loi, ou je deviens ta loi graduellement parce que j'en vis, parce que j'y crois. Et dans le fond, ce que David dit ici, c'est que tes lois, Père, que j'aime, je suis en train de changer pour que ces lois-là fassent partie de moi, partie inhérente de moi, comme la loi de Dieu fait partie inhérente de Dieu. Alors, l'étude quotidienne de la parole. Et je trouve ça bon parce qu'il y a certains ici qui m'ont dit qu'ils ont déjà fait des plans à la fête puis au retour de la fête pour les mois qui viennent. Ça m'a vraiment agréablement surpris. J'ai entendu ça dans la bouche de certains d'entre vous et c'est très bien. Certains m'ont dit plus qu'un, je vais reprendre le cours de Bible au complet, comme si c'était la première fois. Ça, j'ai entendu ça de 2 ou 3 ici dans l'Église. M. Vachon va refaire ça. Puis il l'a fait déjà 2 fois, je pense, dans le passé. Il va le refaire une autre fois. comme la première fois, en écrivant dans un cahier à côté tous les versets au fur et à mesure. Il va prendre le temps de le faire. Il a tout l'hiver pour le faire. Et en plus, il est à sa retraite, donc il y a des heures. Alors, il va s'appliquer là-dessus. Puis, je sais qu'il y en a d'autres qui vont faire la même chose. Et moi, j'ai l'intention de recommencer aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de ce temps-là pour refaire le cours de Bible en inscrivant nos versets, en approfondissant les choses? Même si vous l'avez déjà fait, laissez-moi vous dire quelque chose. Spirituellement, vous n'êtes plus au même endroit que vous étiez quand vous l'avez fait. Vous avez appris beaucoup de choses depuis ce temps-là. Vous avez vécu des épreuves depuis ce temps-là. Vous avez vaincu certaines choses depuis ce temps-là. Ou vous avez manqué à certains autres points depuis ce temps-là. Donc, vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Et Dieu va vous donner de voir avec un angle nouveau ce cours de Bible d'une profondeur extraordinaire. Alors ça, c'est une façon de meubler l'hiver qui vient aussi. D'écouter des sermons. On en a ici, puis je suis content de voir que plusieurs prennent les sermons qui sont là. Madame Asselin prend la peine de tout mettre sur la table avec les titres et tout ça. Et ça rend service. Et ça, on peut en écouter durant la semaine aussi. Réétudier les brochures, les articles, lire les lettres qui entrent. Juste les lettres qui entrent et les articles, là, c'est déjà pas mal d'études, ça, là. Je sais, parce que j'ai de la misère à tout suivre. Moi, j'ai d'autres choses à lire en plus. Puis il faut que je me fasse un programme pour passer à travers tout ça aussi. Alors, vous avez plein de possibilités, là. Puis moi, ce que je vous dirais aussi, c'est de pas toujours faire la même chose comme étude biblique, pour pas que ça devienne une routine. Supposons que vous reprenez votre cours de Bible. Bien, reprenez-les pas pendant 2 mois sans arrêter puis sans faire d'autres choses, à chaque jour, là, tu sais. Vous pouvez faire 2-3 jours du cours de Bible, mettons 1 heure ou 2 par jour, et puis après ça, prendre une brochure, ou après ça, à travers de ça, prendre un sermon. Faites de la variété, puis après ça, vous reviendrez à votre cours de Bible pour continuer. Fait comme ça, ça fait une fraîcheur qui aide. Autrement, si on fait toujours juste la même chose, ça devient lourd, puis ça donne pas autant de fruits qu'on pourrait avoir. Ou bien prenez, par exemple, à l'occasion, dites-vous, par exemple, le mois prochain, je vais prendre le livre d'Ézéchiel ou je vais prendre le livre de Joël. Puis durant le mois, là, à chaque jour, je vais lire un peu de ce livre-là, puis je vais aller faire des recherches par rapport à ça. Un livre de la Bible, vous allez l'éplucher tranquillement, vous allez l'approfondir. C'est une belle étude biblique qui est différente du cours, mais qui complète. Voyez-vous, de la variété, c'est une autre façon qu'on peut faire. Faire de la variété d'une chose à l'autre. Si on fait ces choses, vous savez quoi? Vous savez ce qui va se passer durant l'hiver? Si vous faites un programme pour dire, moi, chaque jour, là, je vais prier, certains le matin puis certains le soir. Peut-être un autre moment donné, si je peux. Mais durant le jour, je vais parler à mon Dieu régulièrement. Je vais lui dire merci pour toutes sortes de choses. Quand que je passe proche d'avoir un accident, je vais lui dire tout de suite merci. Ou que je peux aller chercher quelque chose au magasin d'alimentation, merci que je peux l'avoir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas l'avoir sur la face de la terre. Vous savez, apprendre à être reconnaissant à Dieu. Vivre avec lui de cette façon-là. Si on fait ça au cours de l'hiver, si on étudie chaque jour, on se fait un programme d'études, puis qu'on le maintient, on va être fortifié. C'est les promesses qu'on a vues tantôt. Mais regardez Psaume 84. Psaume 84, juste un peu avant. Psaume 84 et le verset 6. Heureux, ça c'est une promesse. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et si vous vous faites un programme d'études sérieuses quotidiennes durant l'hiver jusqu'aux fêtes du printemps, si vous ne négligez pas la prière, mais qu'au contraire, vous la développez, vous allez être heureux et vous allez placer votre appui en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Ceux qui mettent leur appui en Dieu comme ça, qui comptent sur Dieu, qui s'approchent de lui, il dit, ils trouvent dans leur cœur les chemins tracés. Ça veut dire que quand on ne sait pas quoi faire devant telle ou telle situation, on est proche de Dieu, on lui demande et il nous montre le chemin. Dans notre cœur, il nous montre quel chemin. Il trace le chemin dans notre cœur pour qu'on sache comment réagir, quoi faire, quelle décision prendre, qui consulter pour être capable d'avoir l'aide nécessaire puis de prendre la bonne décision. Ou pour être capable de ne pas prendre de décision trop rapide s'il le faut. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ils savent quel chemin prendre. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, on pourrait dire le monde actuel, il la transforme en un lieu plein de sources. Et c'est ce que vous avez fait par rapport au personnel du Centre d'art Offord à la fête, qui ont trouvé que le lieu où ils travaillent habituellement, où c'est aride avec les gens, ils ont trouvé que c'était devenu un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sources d'eau vive, là. Il y avait les fils et les filles de Dieu remplis de son esprit qui agissaient selon la culture du monde à venir et selon la culture de Dieu. Et ces gens-là l'ont apprécié. Ils ont vu une autre façon de vivre et ils ont dit, waouh, ce serait merveilleux que ce soit toujours comme ça. Ça va l'être. Mais voyez-vous, si on est proche de Dieu, Dieu nous donne de préparer les choses de cette façon-là. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et regardez, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Si nous faisons ça au cours des mois d'hiver, de nous approcher davantage de Dieu, par prière, par étude, par méditation, en nous examinant et en nous préparant pour les fêtes du printemps, notre force va augmenter durant la marche, même si à certains moments donnés, notre marche peut être difficile. Et il se présente devant Dieu à Sion. Et si nous faisons ça, nous nous présenterons devant Dieu à Sion, vers le but ultime. Vous savez, en ce moment autour de nous, puis ça fait partie du choc que j'ai eu en revenant de la fête, en ce moment autour de nous, c'est plus l'atmosphère de la fête. Moi, ce que j'ai vu, ça a été les préparations de l'Halloween. Vous devez l'avoir vu autour de chez vous aussi. Moi, je ne peux pas ne pas le voir parce que un de mes voisins, il y a un Frankenstein d'à peu près 4 mètres de haut en avant de sa maison, et des sorcières de 3 mètres, et des vampires avec le sang qui coule et toutes ces choses-là. C'est horrible. Alors, ce n'est pas les fêtes de Dieu, mais ça, c'est ce qu'il y a autour de nous actuellement. Il y a toute la préparation des fêtes de Noël. Et en passant, hier, j'ai trouvé ça triste. On est allé au magasin d'alimentation, mon épouse et moi, et il y avait une petite madame engagée par le magasin. Vous savez, pour présenter des produits pour faire goûter les gens, là, ils n'ont pas le choix, eux autres, de s'habiller comme le magasin leur dit. Hein. La pauvre madame d'un certain âge avait un affreux araignée sur la tête avec des grandes pattes qui descendaient sur ses épaules. Et on va voir ça là durant le temps de Noël, là, parce que les caissières dans certains magasins n'auront pas le choix de se mettre des petites cornes comme les reines du Père Noël ou d'avoir des nez qui clignotent ou des choses comme ça. C'est maintenant rendu à ce point-là où les employés sont obligés de faire ça dans les commerces. On voit l'esclavage de ces fêtes-là qui sont des fêtes commerciales. Et je voyais sur sur CNN que l'Halloween représente un pourcentage important pour les commerces du mois d'octobre. Et s'ils n'avaient pas l'Halloween, certains seraient vraiment mal pris. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de publicité dans les journaux, à la télévision, sur Internet, pour les soirées costumées, pour les costumes alloués, pour les fêtes et les festivités entourant toutes ces choses-là. C'est ça qu'on a eu en revenant de la fête des tabernacles. Les préparations d'Halloween, les préparations de Noël. Et nos pays qui sont encore nantis pour le moment, nos pays occidentaux qui sont encore riches pour le moment, ou semblent encore riches pour le moment, s'étourdissent par ces fêtes païennes et très coûteuses. Les pays pauvres, eux autres, à travers le monde, continuent à souffrir de plus en plus. Souffrir de la faim, souffrir de la guerre, souffrir de la violence et de l'exploitation sous toutes ses formes. Votre espoir à vous puis à moi, c'est Dieu. Votre espoir à vous puis à moi, c'est le monde à venir. On l'a vu à la fête des tabernacles. Dieu nous a donné de l'entrevoir, d'avoir un avant-goût d'avance. Éphésiens 5, un dernier verset. Éphésiens chapitre 5. Ça vaut la peine qu'on lise ce passage-là de Paul. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 et le verset 15 et 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Donc, utilisez bien le temps que vous avez. Et comme on a vu à la fête, chaque jour qui nous est donné ne passe qu'une seule fois. Utilisez bien le temps que Dieu nous donne encore. Mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et ça, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, c'est la radio, la télévision, les bulletins de nouvelles, les journaux, et on voit la prophétie se réaliser. On est revenu de la fête plein d'enthousiasme. Quelqu'un m'a dit « je suis encore sur mon nuage ». Et c'est bien comme expression. On est sur une lancée spirituelle encourageante. Au cours des mois d'hiver, ayons déjà le cœur tourné vers les fêtes du printemps. Moi, je vous dis, gardons et entretenons l'élan de la fête des tabernacles. Les yeux tournés vers Jérusalem et non pas vers Babylone.